ce jour où remontons dans l'Antiquité sacrée.
Passion Antiquité.
Ça vous dirait une petite visite à l'intérieur de la pyramide?
Oh non.
Une odyssée de 3500 ans d'histoire.
On va avoir l'éternité pour déchiffrer tout ça.
Quand on pense à l'Antiquité, on pense en général à Jules César, les pyramides d'Égypte ou peut-être les philosophes grecs. Mais c'est aussi Sumer, l'âge de fer, les Araméens, enfin tout ce que l'archéologie et l'histoire nous permettent de connaître des anciennes civilisations. Habituellement, on fait commencer l'Antiquité avec l'invention de l'écriture vers 3300 avant Jésus-Christ et on finit à la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. Mais vous le savez, les limites des périodes historiques sont toujours floues. Et si nous pouvions parler d'antiquité au pluriel? Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast Passion Antiquité, avec un S Antiquité, je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail, d'explorer cette vaste période en compagnie de jeunes chercheurs et chercheuses qui l'étudient en master ou en thèse pour vous permettre d'en savoir plus sur cette période. Épisode 1. Djamilatou et les cités antiques en Afrique. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, je suis très très heureuse de vous présenter ce premier épisode de ce nouveau podcast Passion Antiquité. En effet, après Passion Médiéviste sur le Moyen-Âge et Passion Moderniste sur l'histoire moderne, qui continue d'ailleurs avec toujours des nouveaux épisodes tous les mois, je vous propose donc d'explorer une nouvelle période historique, encore plus vaste et plus difficile à connaître, l'Antiquité. Et pour ce premier épisode, donc, nous allons nous intéresser à un sujet peu mis en avant quand on parle d'Antiquité, l'Afrique et les cités antiques. Et comme première invitée, j'ai l'honneur et la joie de recevoir Djamilatou Diallo. Bonjour Djamilatou.
Bonjour.
Donc Djamilatou, en 2019, tu as fait un master d'histoire à l'université Lettres-Sorbonne, spécialité monde antique, et ton mémoire de recherche s'intitulait « Le patronat de cités en Afrique à l'époque tardive, de la fin du 3e siècle au début du 5e siècle, études épigraphiques », sous la direction de Michel Coltoni-Tranois. Donc avec toi, nous allons un petit peu vraiment voyager et découvrir toutes ces cités antiques avec toi, Djamilatou. Déjà, je voulais te poser une première question, la première question du premier épisode de Passion Antiquité. Qu'est-ce qui t'intéresse dans l'histoire antique ?
J'ai choisi de travailler sur l'histoire antique parce que à l'origine, en fait, avant de faire une licence d'histoire, j'ai fait une licence de lettres classiques, donc du latin et du grec à n'en plus finir. Et donc, je voulais continuer sur cette voie. J'ai longtemps hésité aussi avec continuer plutôt en médiéviste, enfin, durant la période médiévale. Mais finalement, quand j'ai rencontré donc Madame Coltoni-Tranois et qu'on en discutait, elle m'a convaincue de travailler sur ce sujet qui m'a paru assez original. Bon, déjà, c'était aussi quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur parce que donc, quand j'ai commencé le latin donc, en cinquième, j'ai tout de suite voulu en faire. Mes parents ne voulaient pas. Bon, je sais que c'est étrange, mais mes parents disaient « Oh, mais c'est une langue morte. Pourquoi tu vas étudier ça? Personne ne s'y intéresse. » Et je disais « Non, j'ai très, très, très envie. » Et j'ai commencé et j'étais totalement passionnée par le sujet. J'avais une très bonne professeure. Puis j'aimais aussi travailler cette langue. J'avais l'impression de déchiffrer des codes. Enfin, c'était vraiment... j'adorais vraiment. Donc après, j'ai fait du grec en seconde, enfin, dès que j'ai pu commencer. Et vraiment, c'était ma passion, c'était ça. Et j'adorais cette civilisation dans tout ce qu'elle comportait. Je trouvais que c'était super aussi intéressant de voir cette civilisation. C'est finalement notre idéal, beaucoup dans notre société aujourd'hui, même si c'est très lointain, mais finalement, notre idéal démocratique, nos institutions, même la façon de rendre la justice, en fait, elle est totalement issue de cette période. Et c'est très, très, très intéressant de l'étudier pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est au niveau de la langue. Bon, j'ai toujours beaucoup aimé les langues. Et de comprendre l'origine des mots, l'étymologie, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà, depuis le début, j'étais à fond antiquité. Donc, bon, j'ai fait une licence de lettres classiques, une licence d'histoire. Et puis ensuite, au moment de choisir mon master, j'hésitais parce que bon, la période médiévale est aussi très intéressante. Et d'avoir un bagage en latin, ça, c'était vraiment très intéressant. Mais finalement, en parlant avec Madame Coltelloni, je lui ai dit, voilà, moi, je voudrais faire un sujet plutôt de l'histoire sociale, l'histoire culturelle, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Moi, dans l'histoire, je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, même si c'est aussi très intéressant et très important, mais l'histoire politique, les grands faits, l'histoire militaire...
Événementielle.
Exactement. Moi, ce que j'aime, c'est l'histoire sociale, c'est comprendre comment des gens à une autre époque vivaient. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressée à l'histoire antique.
Et ensuite, donc, tu as élaboré ton sujet avec ta directrice de mémoire. Comment ça s'est passé et comment est-ce que tu as choisi donc, ce sujet du patronat dans les cités antiques en Afrique?
Alors, donc, je suis à la journée des masters. Donc, à un moment, on pouvait rencontrer des professeurs pour parler de ce qu'on pouvait faire en master, pour un mémoire. Donc, je suis allée voir cette professeure qui j'ai vu travailler sur l'Afrique. Donc, c'était une région qui m'intéressait. Bon, peut-être par envie de faire quelque chose d'un peu plus original. J'avais pas très envie de travailler ni sur la Gaule, ni sur l'Italie. Et l'Afrique me paraissait un peu différente de ce que l'on connaissait habituellement sur l'Empire romain. Et moi, je voulais quelque chose où il y avait énormément de sources, où on pouvait vraiment réfléchir et vraiment faire un travail d'historien plutôt que d'archéologue ou à rechercher quatre documents qui pourraient potentiellement vouloir dire. Donc voilà, je voulais quelque chose d'assez fourni. Et aussi, l'Afrique, ouais, pour le coup, propose vraiment cette possibilité avec énormément de documents et une très riche civilisation aussi. Et donc, du coup, je suis allée voir Madame Coltelloni-Tranois et elle m'a dit, écoutez, ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur le patronat de cité en Afrique. C'est un sujet qui a été un peu étudié, mais elle me dit, bon, c'est un travail de thèse, mais bon, vous trouverez les moyens d'en faire un travail de mémoire, un sujet de master 1 et puis 2.
C'est pression de dire ça quand même.
Oui, je me suis dit bon. Et au début, bon, le patronat, moi, ça me parlait pas tellement, même si c'est une institution très importante, mais c'est pas forcément très connu. Et la deuxième chose, l'étude épigraphique. Donc épigraphique, c'est sur la pierre. Donc c'est toutes les inscriptions qui étaient écrites sur des pierres, donc souvent sur les bases des statues offertes à tel ou tel personnage, par exemple à un patron. Et donc les petites épigraphiques, j'en ai fait un petit peu et ça n'avait pas beaucoup plu. Et je me suis dit, oh là là, j'avais pas très très envie. Et puis finalement, au début, j'ai lu quelques articles et je me suis dit, en fait, c'est génial, il y a énormément de choses à dire, et en plus c'est pas étudié, c'est aussi original, c'est une nouvelle approche, et j'ai trouvé ça vraiment génial.
Alors, rentrons dans ces cités africaines, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous raconter, donc, parce que l'Afrique, c'est quand même très très grand, sur quel espace géographique est-ce que tu as travaillé précisément et quelle cité est-ce que tu as étudié ?
L'Afrique romaine, c'est ce qui est aujourd'hui l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et à l'époque, donc, il y avait des provinces romaines. Et moi, à l'époque sur laquelle j'ai travaillé, il y avait donc 6 provinces romaines, c'est-à-dire l'Afrique proconsulaire, la Byzacène, la Numidie, la Tripolitaine, la Maurétanie Sitifienne et la Maurétanie Césarienne. Donc c'est sur ces 6 provinces sur lesquelles j'ai travaillé, donc c'est assez large, enfin c'est assez important. Il y a des centaines de cités, hein. Il y a Touga, il y a Kipasa, Lepsis Magna, Sirta, il y en a des centaines, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était une région de l'Empire où il y avait énormément de cités, une vie de cité très 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 active, et jusqu'à la fin de l'Antiquité, donc c'est très intéressant.
Et pour comprendre, donc ces régions-là avaient été conquises par l'Empire romain, mais forcément, ils n'ont pas balayé tout ce qu'il y avait déjà. Quelles étaient les puissances qui étaient déjà en place quand l'Empire romain était là aussi ?
Alors, l'Afrique, c'est un peu un millefeuille. Il y a plusieurs civilisations qui se juxtaposent. Bon, déjà, il y a le peuple qui a toujours vécu ici, donc on appelle la civilisation punique. Donc ce sont les berbères, en fait, qu'on connaît encore aujourd'hui.
Qui ont plein de noms différents selon les époques, en fait.
Exactement. Donc, par exemple, on n'a pas cette image, mais par exemple, Saint-Augustin était un berbère.
Attends, quoi ? Saint-Augustin était un berbère ?
Oui, totalement. Ce qui est très intéressant, en fait, avec ces personnes-là, c'est qu'ils étaient très romains. Ils étaient même plus romains que les romains. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement fiers d'être romains que c'était vraiment, à un moment donné, l'Afrique, c'était vraiment le cœur de la civilisation romaine. Bon, après, bien sûr, après l'Italie, mais je veux dire que c'était une province très anciennement romanisée et beaucoup de grands penseurs venaient d'Afrique, hein, comme Saint-Augustin, mais même à Saint-Cyprien aussi, c'était un peu moins connu, mais il est très important aussi. Et puis ensuite, il y a eu déjà, à l'époque hellénistique, des comptoirs grecs, bien avant ma période sur laquelle je travaille. Et donc, il y a eu plusieurs civilisations qui se sont juxtaposées. Et puis aussi, bien évidemment, les Romains qui sont venus. Ce qui est très intéressant dans l'Empire romain, c'est que depuis le début, ils laissent beaucoup de place à l'indépendance des cités, c'est-à-dire qu'elles pouvaient s'organiser un peu comme elles le voulaient, même s'il y avait quand même suivant le statut des tribus à payer à l'Empire et puis aussi le contrôle des gouverneurs donc, qui géraient ces différentes provinces. Mais il y avait quand même une très grande flexibilité dans la vie de cité et ce qui a permis justement aux Africains de rester très africains. Par exemple, dans l'onomastique, donc, c'est-à-dire dans les noms des personnes, on retrouve vraiment les racines berbères, les racines puniques. Et même dans la vie, les noms des cités ont aussi souvent gardé leur nom avant l'époque romaine, par fierté et pour montrer justement l'origine qu'elles avaient. Et c'est très intéressant. En même temps, ils sont très fiers d'être africains, mais ils sont aussi très très fiers d'être romains. Et donc, ça fait une civilisation très intéressante à étudier.
Raconte-nous comment étaient organisées ces cités, parce que donc, tu en as étudié beaucoup, mais les principales, comment la vie était organisée au sein de ces cités ?
Bon, une cité, c'était donc un territoire très bien défini avec des limites, dirigé par une assemblée de citoyens, donc par la curie, on appelait ça. Et ensuite, ces différentes cités se situaient dans une province, à la tête de laquelle il y avait un gouverneur, qui lui était choisi par l'Empire, en tout cas à ma période. Enfin, je vais plutôt parler de ma période, même s'il y a eu beaucoup de fluctuations, mais c'est le sujet. Et donc voilà, donc il y avait aussi un gouvernement central, donc représenté par le gouverneur, et puis après il y avait ces petites cités. Elles pouvaient être de différentes tailles. Par exemple, Lepsis Magna, c'était une très très grande cité.
Elle était située où ?
Elle se trouve en Tunisie actuelle, donc en Tripolitaine de cette époque. Et puis après, il y avait aussi des toutes petites cités comme Théveste, par exemple, qui n'était pas une très grande cité. Et puis dans la cité, bah, il y avait des lieux publics comme le Forum, les bains, des monuments aussi religieux, par exemple des temples pour honorer l'empereur, par exemple, qui était divinisé. Hein.
Ta période, donc, c'est de la fin du IIIe siècle jusqu'au début du Ve siècle. Est-ce que tu vois déjà des évolutions dans ces villes à cette période-là ?
Pendant très longtemps, en fait, on a dit que pendant le Bas-Empire, bon, la vie de cité avait totalement disparu, que on a dit que même l'Afrique, comme toutes les autres régions de l'Empire, était soumise à ces invasions barbares, avec un contrôle de l'empereur très très fort, avec des très grosses, des impôts très importants, des riches dignitaires qui se barricadaient dans leurs immenses demeures. Enfin, voilà, c'est ça qu'on avait un peu comme image du Bas-Empire, c'était vraiment l'anarchie. La réalité, c'est qu'à partir des années 70-80, il y a eu de nouvelles études, notamment...
Du XXe siècle, là, tu nous parles.
Oui, pardon, des années 1970-1980, des nouvelles études, notamment épigraphiques, qui ont repris un peu toutes les inscriptions qui existaient pour essayer de les comparer aux sources littéraires et même juridiques, et vérifier si vraiment c'était le cas. Claude Lepelé, donc c'est celui qui a fait cette étude, qui a vraiment révolutionné l'image que l'on avait de l'Afrique, parle d'un îlot de prospérité. Il y avait quelques peuples nomades qui pouvaient attaquer, notamment en Maurétanie, donc plutôt la partie la moins romanisée, mais c'était quand même des provinces très très tranquilles, où la vie civique s'est maintenue, enfin la vie des cités s'est maintenue vraiment jusqu'au 5e siècle. Après, effectivement, voilà, il y a quand même eu des raids barbares, mais ça n'a rien à voir avec la Gaule ou d'autres régions de l'Empire. Quand on retravaille ces périodes de charnières, on se rend compte que c'est jamais aussi facile de délimiter justement qui est qui. Mais bon, les barbares, par exemple, beaucoup étaient recrutés dans l'armée et ont combattu d'autres barbares au service de l'Empire. Beaucoup se considéraient comme romains. Enfin, c'était beaucoup plus fluctuant que ce que l'on croit. Et en Afrique, il y avait encore des peuples qui n'avaient pas été soumis à l'Empire romain, notamment des berbères, des montagnes. Mais après, ça restait quand même très, très calme. La vie civique s'est vraiment très bien maintenue, même jusqu'au 5e siècle. Il n'y a pas eu de très grands changements par rapport à d'autres régions de l'Empire.
Tu étudies ces cités sous l'angle du patronat. Alors déjà, comment est-ce que tu définirais le patronat ? Est-ce que c'est le même sens qu'on a aujourd'hui ?
Alors là, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Alors, un patron, c'est un personnage d'un rang plus ou moins élevé.
Une personne ?
Oui, une personne qui est choisie en fait par une cité pour soit la défendre auprès de du gouverneur ou même auprès de l'empereur, soit le cas échéant bénéficier de ses générosités, c'est-à-dire qu'il offre des qu'il répare le théâtre, qu'il offre de nouvelles termes. Donc ça, c'est le patronat de cité. Après, il y a différents types de patronat. Il y a aussi des patrons personnels. Donc c'était des personnes qui aidaient une personne. Par exemple, Saint-Augustin, son patron, c'était Cornelius Romanianus. Et par exemple, il a payé ses études. Et en échange, en fait, il y a vraiment une relation de réciprocité entre les deux parties. Donc le patron va faire des générosités, défendre aussi... la personne, par exemple, ou même une cité. Et en échange, cette personne va chanter ses louanges, par exemple, honneur suprême, dresser une statue en son nom, avec une inscription honorifique en dessous. Et donc, vraiment, il y a un véritable échange. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que tu vois des personnes très riches qui dépensent des fortunes et même des fois qui se ruinent pour leur cité en échange de statut.
C'est une forme de mécénat.
Exactement, c'est une forme de mécénat, ça ressemble énormément, sauf que le patronat, il y a un contrat. Il y a un contrat écrit entre les deux parties, notamment le patronat de cité. C'est encadré juridiquement, donc c'est-à-dire que le patron, il ne peut pas dire « Ah non, je ne veux pas le faire enfin, ». Chacun doit...
C'est un engagement qu'il prend.
Exactement, c'est un engagement. Et c'était très, très mal vu de ne pas honorer ton patron ou que le patron ne dédie pas son argent et son temps à sa cité. C'était vraiment quelque chose de très grave. Et au contraire, chacun rivalisait un peu. Ah, bah, tu me donnes ça. Bah, moi, je t'élève une statue. Ah, bah, tu m'as élevé une statue, je vais faire ça. Ça ressemble beaucoup à l'évergésie. Donc, c'est le mécénat, oui. On va dire. Donc, c'était des personnes aux dignitaires qui pouvaient offrir... un monument, des banquets aussi, à la cité. Sauf qu'il n'y avait pas de contrat. C'est la différence avec le patronat de cité. Le patronat de cité, il y a vraiment des contrats. On en a retrouvé. Alors, on donne l'année, en général, à laquelle le contrat a été conclu. Ensuite, on a les deux parties qui sont présentées, donc la cité et le patron, les différents postes qu'il a occupés. Après, c'est très rare que ça soit expliqué pourquoi exactement la cité l'a choisi, mais on y reviendra.
En fait, c'est une question d'honneur. C'est un contrat d'honneur, en quelque sorte.
C'est d'honneur et c'est une forme de don contre don, en fait. C'est assez intéressant, sauf que c'est un don contre don, encadré juridiquement, quelque chose qui est assez unique. Et aussi, c'est très intéressant de remarquer qu'une société s'est fondée dessus. C'est-à-dire que le patronat de cité, on le retrouve dans toutes les provinces romaines. Et il y en a trouvé 1400 inscriptions sur toutes les provinces. Pour l'Afrique, il y en a 300, ce qui est énorme. Et pour ma période, donc du Bas Empire, on en a retrouvé 53. C'est toutes les inscriptions honorifiques, hein. Ce ne sont pas juste les tables de patronat, il y a aussi les bases de statuts. Il y a aussi dans les sources juridiques et même les sources littéraires, on en parle aussi. Donc c'est vraiment une institution très importante. Son importance s'explique non seulement parce que l'évergésie donc, a une place vraiment très importante dans la société romaine, mais aussi que les cités sont très sensibles à l'environnement dans lequel elles évoluent, c'est-à-dire qu'il y a un véritable lien très fort entre la cité et le patron. On parle d'amicitia. Le mot amicitia signifie beaucoup plus que l'amitié en latin, ou amor. C'est vraiment on retrouve dans les inscriptions des termes très très forts et il y a un véritable lien affectif en fait qui unit le patron à la cité. Il ne fait pas que ça, bon, même s'il fait ça aussi pour frimer, pour les honneurs et tout, mais il y a aussi un sentiment d'appartenir à cette cité. Il y a aussi le terme qu'on retrouve des fois qui c'est alumnus, qui veut dire enfant de la cité, et c'est aussi comme ça qu'on qualifie quelquefois le patron.
Quel angle d'approche est-ce que tu as choisi pour étudier ce patronat ?
Au début donc, de mon travail de recherche, ma directrice m'avait parlé de travailler sur le patron à l'époque romaine, mais sans vraiment de date fixe, limite temporelle. Donc elle m'a dit « vous inquiétez pas, vous n'en trouverez pas non plus un nombre infini ». Donc j'ai commencé à chercher, je trouve 10, 20, 30, 40, je me dis « mais c'est pas possible bon, ». Je ne savais pas encore qu'il y en avait 300, hein, je l'ai découvert après. Et du coup, quand je suis allée la voir, au bout d'un moment, en lui disant « bon là, vraiment, c'est énorme, je ne vais jamais réussir à traiter ça dans une année de master », c'est-à-dire que mon travail, ce que j'ai fait du coup pendant mon année de master, c'est relever toutes les inscriptions qui mentionnaient le nom de patron, afin de dresser ensuite une sorte de recueil épigraphique, afin d'ensuite analyser ce que c'était que le patronat. C'était énorme, c'était pas possible, donc elle m'a dit « bah écoutez, voyez comment vous pouvez circonscrire le sujet ». Alors j'ai réfléchi.
Réduire, choisir qu'une petite partie.
Exactement. Est-ce que je prends une partie de l'Afrique romaine ? Mais je trouvais que c'était pas très intéressant. Ce qui était intéressant, c'était vraiment ce cadre géographique assez large qui permettait de voir les disparités régionales. Et en fait, dans mes recherches, j'ai travaillé et j'ai trouvé quand même beaucoup de choses sur le Bas-Empire, donc à l'époque, entre la fin du 3e siècle et le 5e siècle, et puis des choses très intéressantes, assez originales, comme des patronnes. Et,
des femmes ?
Tout à fait.
Tu veux nous en parler, j'ai hâte.
Et donc, du coup, je me suis dit que ça serait très intéressant et que ça n'a pas été fait. Alors, il y a une étude en allemand que je n'ai pas pu lire parce que je ne parle pas allemand.
Quoi ? Allemand. Tu ne parles pas allemand ? Mais voyons, tu n'as pas honte, tu parles que latin et grec.
Qui a été publié dans le milieu du XXe siècle, mais après, il n'y a pas eu de nouvelles études, et notamment après les travaux donc, de Claude Le Pellet, qui a un peu remis au goût du jour, qui en tout cas a révélé que finalement, les cités n'avaient pas disparu dans l'Antiquité tardive. Il n'y a pas vraiment eu de travaux, et encore aujourd'hui, il y a encore cette vision d'une Antiquité décadente. Mais cette vision d'Antiquité décadente est intéressante, parce qu'en fait, c'est aussi penser que le Haut Empire est meilleur, est plus beau, que ce que l'on pense, c'est-à-dire que Rome n'était plus ce qu'elle était, c'est un peu cette idée. Et donc, j'ai trouvé super intéressant de travailler sur le patronat pour un peu aussi aller contre cette idée, bon, n'ayant pas une idée avant de commencer, mais en tout cas, en travaillant dessus, je me suis rendu compte, non, en fait, il y a... Parce qu'on pensait à un moment donné qu'il n'y avait zéro patron. Au Bas-Empire, on pensait qu'il n'y en avait plus du tout.
Une pratique qui avait été abandonnée.
Totalement, on pensait que les gouverneurs servaient un peu de patron, mais que de toute façon, ça avait dû disparaître, puisqu'il n'y avait plus de vie de cité, c'était pas possible que c'est disparu. Sauf que j'en ai quand même retrouvé 48 de patrons.
Et donc, qui sont les patrons sur lesquels tu as travaillé ?
Alors, les patrons. Alors, ils pouvaient être... en général, de deux origines. Donc, soit c'était des sénateurs, de riches romains qui habitaient à Rome, majoritairement, donc leur maison principale était à Rome, mais qui avaient été gouverneurs dans la région. Et souvent, les cités aimaient bien choisir comme patron le gouverneur pour essayer que celui-ci soit clément envers elles, et puis potentiellement leur offre des monuments. Enfin voilà, essayer de se mettre un peu dans la poche ce gouverneur. Donc on trouve énormément de patrons-gouverneurs. Mais ça pouvait être aussi des riches locaux qui ne sont jamais partis de leur ville et qui ont fait toute leur carrière sur place, qui sont assez riches. Et en fait, le patron représentait un peu la quintessence de ta carrière. Enfin, c'était vraiment finir comme patron à la fin de ta carrière dans ta cité, c'était vraiment un très grand honneur. Et donc on retrouve aussi beaucoup de patrons d'origine locale. Alors... sur ça, justement, c'est très intéressant parce que, contrairement aux autres provinces de l'Empire romain, dans les autres provinces, on retrouve beaucoup plus de patrons d'origine romaine que de patrons d'origine locale, en tout cas pour l'Antiquité tardive. Et une dame a travaillé sur le patronat de province. Alors oui, parce qu'on pouvait être patron de cité, mais aussi patron de province.
Ah oui, donc gros statut là.
On pouvait être aussi patron de cité et patron de province, c'était possible aussi.
Ah ouais, là c'est top grade.
Et cette dame a montré que...
C'est qui, pardon ?
Sabine Lefebvre. Elle a travaillé donc sur le patronat de province et a montré qu'on retrouve beaucoup de patrons locaux. Premièrement parce que les habitants préféraient choisir des gens qui étaient proches d'eux et donc proches de leurs besoins et qui pouvaient comprendre leurs besoins. Donc c'était plus intéressant que de choisir un patron qui a vécu toute sa vie à Rome et qui va venir qu'ici que pour être gouverneur puis qui va repartir et qui va peut-être les oublier. J'ai réussi pour une grande majorité de patrons de découvrir si c'était d'origine locale ou si c'était d'origine romaine, à quel rang ils appartenaient, est-ce que c'était des notables de la ville, est-ce que c'était des gens qui avaient le rang de clarissime, donc c'est sénateur. Ou perfectissime. Bon, alors ça, c'est un terme un peu compliqué à cette époque parce que donc perfectissime sont des chevaliers. Donc c'est le deuxième ordre. Donc il y a les
chevaliers. Ah ouais.
Oui, bon, ils sont pas vraiment chevaliers, mais c'est donc il y a les sénateurs. Ensuite, il y a l'ordre équestre, donc les chevaliers. Donc par exemple,
ceux qui montent à cheval, en fait, là, on n'est pas dans la chevalerie. Bien, forcément, on n'est
pas à cheval. Ils marchaient même pas à cheval. Hein. C'est peut-être ce qu'on donnait au nom au début. Par exemple, Cicéron était chevalier. La société romaine est extrêmement hiérarchisée. Tout est dans des cases. Et c'est peut-être ce qui est aussi très difficile, c'est qu'il y a une telle organisation de la société que des fois, on s'y perd. Enfin, en tout cas, pour des chercheurs, c'est difficile des fois de ne pas s'y perdre. Donc, il y a les clarissimes, qui est donc sénateur, et les chevaliers, qui étaient perfectissimes en latin. Sauf que le rang de perfectissime a disparu en 326, donc pile au milieu de ma période, c'est-à-dire que l'empereur Constantin a fait disparaître l'ordre des perfectissimes et a grossi les rangs du rang sénatorial à 2000 membres. Et puis j'ai essayé de retrouver aussi des familles, parce qu'en fait, le patronat de cité, c'est quelque chose qui se transmet à tes enfants, même à ta femme. Enfin, je veux dire, c'est une affaire de famille, le patronat. Et donc on retrouve, et j'ai réussi à retrouver, des familles de patrons sur, par exemple, Quintus Aradius Rufinus.
Tu cites ça de tête, hein. Je tiens à dire aux auditeurs que là tu n'as pas de notes quasiment devant toi, tu viens de nous citer ça de tête comme ça.
Oui, c'était un patron donc, de six cités en Byzacène et en Numidie. Il était de rang sénatorial. Et en fait, on se rend compte que son frère était patron, mais de collège, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Italie, qu'une de ses ancêtres était patronne. Et donc, on retrouve finalement sur les générations vraiment ces liens de patronat. Il pouvait être aussi, enfin, il y avait vraiment cette notion de transmission du patronat.
Je veux bien qu'on revienne à ce que tu disais, que tu nous as déjà dit plusieurs fois, mais que les femmes pouvaient être patronnes.
Oui, tout à fait. Et c'est très intéressant parce qu'on retrouve énormément de patronnes africaines.
Donc, est-ce qu'on avait des femmes sénatrices ?
Non. Ah. Alors, les femmes n'étaient même pas considérées comme citoyennes.
Hein. Bon, ok, ça calme.
Donc, mais, c'est pas parce qu'elles n'avaient pas de statut de citoyenne, ou en tout cas, elles n'étaient pas considérées comme les hommes, qu'elles ne pouvaient pas avoir d'influence. Qu'elle ne pouvait pas être puissante. Enfin, la puissance émanait du coup de sa famille, donc si elle appartenait à une famille importante. Et puis aussi, même si elle n'allait pas à la curie et tout, elle avait quand même une vie et des relations très importantes et qui pouvaient être super intéressantes pour les cités. Pour les patronnes, on en retrouve 19 dans tout l'Empire, dont 12 qui viennent d'Afrique. On ne sait pas pourquoi en Afrique, il y a énormément de patronnes. J'ai cherché. D'autres ont cherché avant moi, et il n'y a pas vraiment d'explication, à part peut-être que c'est une particularité de l'Afrique, on retrouve beaucoup de patronnes, 12 patronnes sur toute la période. Hein, donc,
ça n'est pas énorme non plus, enfin, c'est quand même...
Non, ce n'est pas énorme, mais après, c'est aussi le hasard des trouvailles, je veux dire, peut-être qu'il y en avait beaucoup plus, mais on ne le saura jamais. Donc, pour notre période, donc de la fin du 3e siècle au 5e siècle, nous avons malheureusement qu'une seule patronne connue, qui s'appelle Aradia Roschia Calpurnina, qui était patronne de Boularega, donc actuellement c'est proche de la frontière avec la Tunisie. Donc cette femme, elle appartenait donc à la famille de notre fameux Quintus Aradius Rufinus. Et donc on voit vraiment que cette famille, donc, qui a des origines africaines, donc c'est la famille des Aradii, qui a ensuite, un des parents a noué un très bon mariage avec la famille des Valerii, et donc ont pu avoir accès au statut de sénateur et donc venir à Rome. Et on a retrouvé du coup dans leur maison des tables de patronat, donc avec les cités avec lesquelles Quintus avait noué des relations de patronat. Et il y a, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette famille, il y a une branche qui restait en Afrique et une branche qui a monté en grade et qui est arrivée à Rome. Mais la famille de Rome continue à avoir de très bonnes relations avec l'Afrique. En fait, le patronat permet vraiment aux patrons de continuer à maintenir leur influence sur la région dans laquelle soit ils ont travaillé, soit dont ils sont originaires. Et ça leur permet aussi d'étendre leur influence en dehors de Rome. C'est-à-dire, ça leur permet vraiment d'avoir des zones d'influence dans d'autres régions de l'Empire, par exemple en Afrique. Et ça peut être très intéressant d'avoir le soutien aussi de ces cités et d'être reconnu par elles et d'avoir les honneurs que leur donnent ces cités.
J'avais une question sur ces sources. Comment est-ce que tu as constitué ton corpus ? C'est-à-dire, comment tu as trouvé ces pierres ? Elles étaient répertoriées quelque part ? T'as fait, j'imagine que tu n'y es pas allée, ou peut-être ?
Non, genre j'avais très envie. À un moment donné, je devais aller en Tunisie, mais j'ai dû annuler mon voyage, bon, pour des raisons personnelles. Mais ce qui est très triste, parce que j'avais vraiment envie d'aller voir les cités sur lesquelles j'ai travaillé.
C'est pas fini, un jour peut-être ?
Oui. En fait, pour quand on fait de l'épigraphie, en fait, il y a ce qu'on appelle des recueils épigraphiques. Ce sont des travaux d'archéologues qui ont répertorié, par exemple, sur telle région, sur telle ville, toutes les inscriptions. Donc. Mais elles sont pas référencées par patron, par exemple. Donc, il faut regarder dans la table des matières ou...
Il faut éplucher les tables des matières.
Exactement. Donc, j'ai épluché des dizaines et des dizaines de recueils pour retrouver tout ce qui avait un lien avec le patronat de cité. Donc, c'est un travail en bibliothèque, hein, majoritairement, donc à la bibliothèque de la Sorbonne, mais aussi dans d'autres bibliothèques spécialisées en antiquité. Une grosse partie de mes sources sont épigraphiques, donc voilà, recenser toutes ces inscriptions, puis les traduire. Donc, heureusement que j'ai tout traduit, hein, toutes mes inscriptions, je les ai traduites moi-même. Déjà, je les ai retranscrites parce qu'une inscription épigraphique, comme c'est sur une pierre et qu'on n'a pas forcément beaucoup de place et qu'on veut quand même mettre beaucoup de choses, ben, y a beaucoup de sigles en fait. Il faut reconstituer ces sigles. Et il y a beaucoup de règles de typographie pour mettre en peu de mots un long message, en tout cas dans l'épigraphie. Et donc, quand on veut travailler sur ces textes, il faut d'abord tous les retranscrire, puis les traduire. Donc, c'est ce que j'ai fait en ma première année de master. En fait, j'ai surtout constitué ce recueil épigraphique. Et ma deuxième année de master, je l'ai vraiment consacrée à l'analyse de toutes ces données que je n'avais pas encore pu analyser parce que c'était quand même énorme. Après, il y a aussi des sources littéraires. Par exemple, dans Saint-Augustin est une source très intéressante. Il parle notamment d'un de ses patrons, il en fait l'éloge. Il parle aussi du patronat en général qui n'est pas très bien vu, en tout cas a priori par la chrétienté, qui considère que voilà, rechercher les honneurs, dépenser son argent, enfin voilà, c'est vraiment tout à fait contraire à la doctrine chrétienne.
Pourtant, la doctrine chrétienne, c'était peut-être pas au début, mais donner de l'argent pour l'église et tout ça, c'est quand même très valorisé.
Oui, oui, mais la charité chrétienne n'a rien à voir avec le patronat parce que les patrons ne donnent pas aux pauvres. Enfin, il n'y a pas une notion morale derrière ça. Et puis, c'est vraiment rechercher les honneurs. C'est-à-dire qu'on donne, mais en échange, on loue notre nom. C'est très loin de l'humilité chrétienne, par exemple. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé des tables de patronat avec des symboles chrétiens, des chrismes, le signe alpha et oméga. Donc les premières et dernières lettres de l'alphabet grec, qui étaient aussi des symboles chrétiens, qui montrent en fait que finalement, bon, peut-être dans les textes littéraires, voilà, il y avait une très forte opposition, mais dans la réalité, voilà, il y avait des chrétiens et il fallait bien vivre avec dans la vie de la cité. Et par exemple, cette personne, donc, elle s'appelle Aelius Julianus, avait donc une table de patronat avec des sigles chrétiens. Il était flamine perpétuel, donc c'est le flamine perpétuel est celui qui s'occupe du culte de l'empereur normalement, mais à l'époque tardive, ça n'a plus cette signification. C'est quelqu'un qui doit juste s'assurer que les gens continuent d'honorer l'empereur et doit organiser des jeux chaque année. Et donc ce flamine était aussi donc patron et chrétien. On retrouve voilà, cet entrelacement entre la chrétienté et puis le patronat. Et ce qu'a montré aussi les travaux de Claude Le Pellet, c'est que finalement, en Afrique et même dans d'autres provinces de l'Empire, ce qui est très intéressant, c'est de voir que finalement, la figure de l'évêque va s'inspirer en fait de la figure du patron à la fin de l'Antiquité. Les évêques vont être choisis parmi les notables de la cité, qui étaient donc là où étaient choisis les patrons. On voit vraiment un entrelacement entre ces deux mondes.
Jamila Tou, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as fait ?
Beaucoup de choses. J'ai totalement dévié par rapport à ce que j'avais fait jusqu'ici. Même si j'ai énormément aimé travailler sur l'Antiquité.
Ça s'entend.
Et sur les patrons, et c'était vraiment très, très passionnant. Mais je voulais continuer à travailler sur le patrimoine en général, parce qu'en fait, je viens de Tahiti. Ah. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et quand j'ai rentré l'été pour voir mes parents, qui habitent toujours là-bas, j'ai fait plusieurs stages au musée de Tahiti et des îles. Et donc, c'était très intéressant. Et je me suis beaucoup intéressée à la muséologie, notamment la muséologie dans ce contexte très particulier qui est muséologie avec des peuples autochtones. Donc
muséologie, tu peux nous dire un peu en quoi ça consiste ?
C'est toutes les études concernant les musées, donc tout ce qui est muséographie aussi, donc c'est-à-dire l'organisation de l'exposition, mais aussi réfléchir sur la façon dont les musées sont organisés, notamment au travers de l'histoire, et comment créer des musées qui représentent au mieux la société dans laquelle ils s'inscrivent. Donc moi, je me suis beaucoup questionnée sur ces questions donc de muséologie chez les peuples autochtones, notamment à Tahiti, parce que le musée de Tahiti, qui est un très très beau musée avec vraiment des très belles collections, mais pas beaucoup de Polynésiens y vont, et c'était quelque chose qui me paraissait un peu étrange, et du coup j'ai beaucoup creusé ces questions, et j'ai commencé aussi moi-même à me passionner sur les peuples autochtones aussi en Amérique latine, et donc j'ai totalement basculé. J'ai fait un master de gestion de projets culturels internationaux.
Après le master d'histoire,
exactement,
ça, ouais.
J'ai fait un master de gestion de projets culturels internationaux dans l'idée de travailler par la suite au sein d'associations qui œuvrent pour mettre en place des projets muséologiques correspondant plus à la pensée autochtone dans des contextes totalement différents, notamment au Chili, qui est un pays aussi qui m'intéresse beaucoup. Et dans le cadre de ce master, j'ai rencontré Madame Bouvarti, qui était ma directrice de mémoire de cette année, parce que je continue à écrire des mémoires sur d'autres sujets. Et elle m'a poussée à faire une thèse, donc je suis en train de m'organiser pour faire une thèse, donc pas du tout sur les patrons de cité, mais sur la muséologie autochtone au Chili. Donc cette année, c'est un peu mon année où je prépare un peu les dossiers, parce que c'est assez compliqué, notamment pour se faire financer. La recherche, aujourd'hui, c'est très compliqué en France. Je suis toujours en master, donc je fais un troisième master. je fais un troisième master, mais...
En fait, dans 10 ans, tu seras encore en train de faire un master.
Non, j'ai vraiment envie de... La recherche, j'adore, j'aime beaucoup l'emploi du temps, enfin, la façon dont s'organiser, d'être à son compte, d'une certaine façon, travailler à son rythme, comme on en a envie. J'aime beaucoup travailler en bibliothèque, hein, je suis une rat de bibliothèque, je ne vais pas le mentir. Et je trouve vraiment passionnant de chercher, j'ai l'impression d'être une archéologue, enfin la Indiana Jones. Je suis très curieuse, donc ça me permet d'assouvir ma curiosité qui n'a pas vraiment de fin. Donc voilà, donc je m'intéresse à beaucoup de choses et je suis très heureuse de pouvoir faire cette thèse si jamais j'ai l'occasion de le faire. Je suis en train de préparer tout ça.
Pour finir cet épisode, Jamila Tou, peut-être que les personnes qui écoutent Passion médiéviste ou Passion moderniste savent déjà ce que je vais poser comme question, c'est un peu ma question rituelle. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait étudier alors les cités antiques d'Afrique de l'Antiquité tardive ou même l'Afrique en général à cette époque-là?
Moi, je pense que déjà, il faut être quelqu'un de très curieux et même dès la licence, aller à des conférences, à des journées d'études, même si c'est pas forcément quelque chose peut-être loin de ce qu'on pense qui nous intéresse, mais c'est comme ça, en participant le plus possible à la vie scientifique. Et il y en a plein à Paris, elles sont gratuites, on a vraiment une chance incroyable, on peut y aller toutes les semaines, hein. Bon, aujourd'hui un peu moins, mais il y en a beaucoup en ligne. Et voilà, s'intéresser... Oui, là,
même les gens qui ne sont pas à Paris, du coup, avec celle en
exactement,
ligne...
Exactement, exactement. Et on peut avoir accès à ces journées où tu entends des chercheurs qui parlent de sujets totalement différents, et même si tu n'y connais rien, bah justement, ça t'ouvre beaucoup de portes, et ça te forme aussi à qu'est-ce que c'est que la recherche scientifique. Après, je pense que maîtriser le latin et le grec, c'est quand même un gros plus, surtout pour l'Antiquité. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance, étant donné que je pouvais traduire des textes en latin et en grec, j'ai pu travailler directement sur les sources. Beaucoup d'historiens d'Antiquité choisissent de travailler sur l'Antiquité, mais n'ont pas de formation en latin et en grec, et c'est quand même dommage, parce qu'ils ne peuvent pas travailler directement sur les textes, mais que sur des traductions. Donc moi, par exemple, ils n'auraient pas pu faire mon sujet, parce que beaucoup d'inscriptions n'étaient pas traduites, donc c'était pas possible. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant. Après, c'est tout à fait possible aussi de le faire sans formation linguistique en latin et en grec, différentes approches possibles. Et je pense que ouais, il faut être très curieux, et s'intéresser aussi à d'autres civilisations qui sont peut-être très loin de nous, mais qui échangent à cette époque, et influent aussi, donc c'est très important aussi d'avoir cette vision globale.
Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur les cités africaines à la fin de l'Antiquité. Donc merci beaucoup Jamila Tou Diallo pour ce voyage dans le temps et dans l'espace. Je vous souhaite bonne continuation pour la suite de ton parcours. J'espère que tu vas continuer à pouvoir travailler donc sur le Chili.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir écouté le premier épisode de ce podcast Passion Antiquité. Si vous voulez en savoir plus sur les cités antiques africaines et tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, je vous mets dans la description de l'épisode, un lien vers le site où vous pourrez trouver plus d'informations ainsi que quelques conseils de lecture. Si vous voulez suivre l'actualité de ce podcast, vous pouvez vous abonner à Passion Antiquité sur Twitter et Facebook. Je pense pas que je vais faire de compte Instagram parce que c'est déjà pas mal, hein, Twitter et Facebook. Et le compte Instagram de Passion Médiéviste m'occupe déjà beaucoup. Et oui, donc si vous avez envie d'écouter d'autres podcasts sur l'histoire avec de jeunes chercheurs et chercheuses et de découvrir plein de choses sur l'histoire, allez écouter Passion Médiéviste et Passion Moderniste qui sont bien sûr disponibles sur toutes les bonnes applications de podcast. Et dans le prochain épisode de Passion Antiquité, on parlera de la Mésopotamie. À très vite! J'avais pensé en fait à d'autres introductions pour l'épisode. Des rives de l'Atlantique à celles de l'Indus, de la source du Nil au mur d'Adrien plongé dans 3500 ans d'histoire.
Ah, c'est top, j'adore.
J'ai aussi Odyssée à travers le temps et l'espace, mais c'est déjà dans une émission de radio à France Inter qui s'appelait Sur les épaules de Darwin. Ils l'utilisent beaucoup, donc je ne vais pas garder ça.
Moi, ça m'a fait voyager, là. Waouh, waouh.
J'ai aussi... Attends, j'en ai d'autres. Des antiquités plurielles réunies dans un même podcast. Voilà, c'est un peu plus simple, mais voilà. Alors là, de façon un peu plus rigolote, parce que j'ai eu des suggestions, on m'a dit « Après l'invention de l'écriture et jusqu'à la chute des Roms, il s'est passé des trucs un peu partout. On va vous en parler. » Et attention, on a trouvé une période avec encore moins de sources que le Moyen-Âge, l'Antiquité.
Ça, c'est faux. C'est énervant, c'est pas vrai. Il y a énormément de sources. Ça dépend quelle période. Mais moi, par exemple, à ma période, il y a énormément de sources. Enfin, j'en ai même eu trop. J'arrive même pas à tout faire. Bon, ça, c'est l'antiquisant qui parle. Qui dit « Non, les médiévaux ne nous battraient pas sur ça. »